C'est une victime ressuscitée que les chrétiens offrent en sacrifice aujourd'hui. La victime est anastasiée. Et c'est une victime dans l'acte pur de la résurrection que les chrétiens offrent. Et cette offrande qui, comme il est écrit dans la Sainte Écriture, oblige la victime de monter au ciel et de disparaître à leurs yeux. Et cette victime, c'est l'agneau. Et cet agneau, c'est l'agneau de l'anastase et de la résurrection. Il reste à l'immoler et il le sera à jamais. Il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Alléluia, il le fallait. Il a passé à travers les portes de la chair sans l'abîmer. Son immolation est glorieuse. Comme il est passé au travers de l'agilité, de la subtilité, de l'impassibilité et de la gloire, de l'amour qui avait été le sien lorsqu'il a créé le monde entier. Il a créé le monde entier pour pouvoir y demeurer et donner tout ce qu'il avait. Et il a traversé les portes du cénacle. Le cénacle, c'est l'amour ressuscité des hommes. L'amour des hommes sans aucune trace de péché. Il est ressuscité d'entre les morts et son immolation a vraiment remplacé toutes les opacités, toutes les lourdeurs, toutes les entraves, tous les blocages, tous les murs dans lesquels le démon avait réussi à bétonner l'univers et l'humanité. À Noël, Jésus est sorti comme ça, à travers le cénacle de l'humanité intégrale, parfaite, sponsale, dans son immunité principielle glorieuse. En naissant de cette manière-là, à Noël, il a non seulement préservé la virginité sponsale de son Père dans l'éternité et de sa Mère dans le temps, mais il l'a divinisé. Il nous a non seulement préservé, mais en plus, il nous a donné une virginité glorieuse dès le premier instant de son incarnation, mais aussi à sa nativité. Ce qui obligeait le Père et le Saint-Esprit et lui-même, comme Dieu vivant, à ressusciter d'entre les morts de la même manière, en traversant toute chair, toute matière primordiale, tout être de vie, tout acte produit dans le monde, sur la terre et dans les cieux, toute intériorité angélique sans limite et sans fin dans son diaphane intime et stupéfait d'admiration et de contemplation. Il a traversé tout d'une manière victimale. Victimale, Pascali, Laudes, Immolente, Christiani. C'est par sa Pâque que sa victimation a été prodigieuse, étonnante, et qu'elle a renversé dans une conversion éternelle toutes choses. Et les chrétiens, donc, Immolente, Christiani, les chrétiens, ceux qui portent son nom, qui ont été traversés, ont été purifiés, ont été immaculisés, ont été virginisés, mais pas seulement préservés de cette manière admirable, mais ils ont été aussi divinisés. Il a divinisé notre virginité, notre immunité principielle. Nous avons connu ce germe d'éternité au jour où nous avons dit oui en voyant la résurrection dans le livre de la vie descendre jusqu'à nous, avant notre naissance, de notre conception, jusqu'à notre nativité dans le baptême, a posé en nous un germe d'éternité indissoluble, invincible. Il est ressuscité. Il fallait que le Christ ressuscite d'entre les morts. Il le fallait. Et vous remarquerez avec moi que Dieu a ressuscité Jésus sans abîmer la nature humaine, restaurée dans sa gloire primordiale. Il l'a fait dans le silence. Il est ressuscité silencieusement. Le Père, dans tout ce qui habite son intimité éternelle, habitait le corps broyé du Christ depuis sa conception, immolé depuis sa conception, offert à la mort la plus infâme depuis sa conception. Le Père, avec tout ce qu'il porte éternellement en lui, de baume, de parfum, avait trouvé dans cette immolation du Christ sa demeure éternelle, quelque chose qui faisait que sa demeure éternelle, sa demeure en lui, était de même nature. Elle était à la fois incréée et à la fois glorieuse. Il fallait que le Père le ressuscite d'entre les morts. C'est silencieusement que le Père a fait ça. Et il s'est servi pour ça de l'humilité principielle glorieuse, transfigurante et transfigurante, traversant tous les espaces, toutes les intériorités, tous les espaces intérieurs de la création et de tous les univers créés par Dieu. C'est silencieusement qu'il a fait ça, le Père. Et il s'est servi de cette immunité principielle indissoluble. Et gardait, il est ressuscité. C'est palpable, la résurrection. Parce que il a véritablement traversé, saisi, et tout lui appartient dans son immolation ressuscitée. Egerté, il est ressuscité. Il a vraiment traversé pas seulement chacun d'entre nous, pas seulement chaque élément de matière primordiale, de matière vivante, etc. Pas seulement ça. Il a aussi traversé chaque instant présent. Il a ouvert dans chaque instant présent une porte dans l'éternité du Père qui était en train de le ressusciter. Le Père et lui, l'immolé, ont ensemble produit la résurrection, la gloire de l'amour éternel de Dieu venant illuminer, embraser, glorifier, virginiser et diviniser toutes choses. Et il a traversé aussi donc tous les univers. Par exemple, mon ange gardien, quand je regarde comme ça, vers le ciel et vers la terre, que j'ouvre les bras, il y a quelque chose qui se déchire dans le diaphane intime de Dieu, au-delà de l'univers, au-delà du ciel même. Et quand se déchire le diaphane, je vois mon ange gardien descendre jusqu'à moi, fulgurant, silencieusement. Eh bien, pourquoi et comment fait-il pour venir jusqu'à moi dans ma prière, s'unir à moi dans le oui de la victime pascale glorieuse et bénie? C'est parce que Jésus et Dieu le Père ont traversé toutes ces intériorités d'avant la création du monde et de notre univers temporel. Et le diaphane, c'est-à-dire toute sa vie intérieure, a été entièrement saisi par la résurrection du Père dans l'immolation virginale. Et c'est ainsi que mon ange gardien a été rendu immaculé de la virginité corporelle des hommes et du Fils de l'homme et de l'homme vivant. Et l'homme vivant ressuscité ainsi de cette manière, c'est la gloire de Dieu le Père. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Et il a traversé toutes choses, mais en les traversant, il les a saisies en lui-même. Elles lui appartiennent totalement, comme elles appartiennent désormais au Père avec lui. Anastasia. Il est ressuscité, Anastasté. C'est ce que disent les anges dans l'évangile d'aujourd'hui. Mais il est ressuscité. Il n'est pas dans un état de crucifixion. Il est dans l'état de la résurrection. Anastasté, il est ressuscité. L'anastase. Il n'a pas seulement traversé toute chose, mais saisissant à l'intérieur de la paternité où la résurrection s'opère en lui, à travers l'immunité principielle, sponsale, glorieuse et transfigurée de Marie et Joseph, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, que c'est à travers ces portes du cénacle-là que s'est opérée cette anastase. Il a fait exploser toutes les limites de tous les univers. Elles ont toutes explosé. Elles ont ouvert toutes les portes. Et c'est une aspiration de lumière et de gloire qui a permis au Saint-Esprit, avec le Père et l'agneau immolé, de venir habiter ce qui dépasse toutes les frontières de tous les univers, corporellement. Ça veut dire de manière immaculée, sponsale, virginale, divine et victorieuse de tout. Il a dépassé, vous voyez, les limites de l'univers. Il n'a pas seulement été ressuscité. Il a ouvert tous les espaces limités des univers qu'il avait créés avec le Père, le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit l'a fait habiter corporellement de son immolation glorieuse d'agneau de Dieu, bien au-delà des limites de notre univers et de tous les univers. L'univers de l'anastase a ainsi été constitué. Et il était normal, donc, que les linges se soient dégonflés et posés sur la pierre angulaire. C'est le travail de chrétiens, c'est le travail de Marie, c'est le travail de Joseph, c'est le travail de l'église de la Jérusalem dernière, que d'immoler, d'offrir à celui qui est immolé dans un état de gloire au-delà des limites de notre univers, dans l'univers de la résurrection. Anastasté, Egersis, en grec, il est ressuscité, mais aussi Anastasis. C'est en même temps la résurrection et l'anastase. L'anastase, ça dépasse tout. Mon ange, donc, ainsi saisi par l'immunité principale sponsale, incarné aussi, a acquis à travers la résurrection du Christ une agilité qui lui permet d'habiter et de courir à l'intérieur de l'anastase, au-delà des univers. Et du coup, il loue et il glorifie Dieu dans l'immolation du Christ. Mon ange gardien. Alors je peux ouvrir bien sûr les bras et voir que Saint-Michel et les myriades, c'est-à-dire des milliards d'anges glorieux sont de la même manière ensemble dans un flux, un reflux continuel entre l'Egersis et l'Anastasis, c'est-à-dire entre la résurrection et l'anastase. Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Il suffit de regarder le travail de l'église de la Jérusalem de la fin, quand il vit les linges qui étaient là, qui étaient posés sur la pierre. Alors il crut. La résurrection et l'anastase sont une nécessité pour la très sainte Trinité et l'église de Marie. Dans son anastase, est une nécessité pour Dieu, parce que la résurrection ne peut pas avoir de fécondité sans l'Église. Si nous sommes ressuscités, nous sommes ressuscités. Et si nous sommes ressuscités, nous sommes ressuscités. Et si nous sommes ressuscités, c'est que nous sommes ressuscités. Nous sommes anastasiens. Alors, Les choses de la terre ont disparu à nos yeux et nous ne vivons que de la résurrection dans l'anastase de son immolation. Ce sont les choses d'en haut, c'est ce que tu as lu. Si nous sommes ressuscités avec le Christ, nous savourons et nous sommes entièrement saisis par les choses d'en haut. Nous ne nous intéressons plus du tout, en aucune manière, aux choses de la terre. Alors voici arriver les jours où l'anastase a pu se saisir de la Jérusalem, c'est-à-dire du corps mystique de l'Église tout à fait entier, vivant, en même temps glorieux, dans son diaphane intérieur sans limite et sans fin, c'est-à-dire le monde glorieux angélique. Nous arrivons au jour où la foi en la résurrection et la résurrection dans la foi vont se conjoindre ensemble dans une unique lumière. Le germe d'éternité, la maîtrise de toutes choses, va établir sa manifestation visible et invisible sur la terre comme au ciel. C'est pas seulement notre espérance, c'est palpable. Ce que Marie a vécu, Joseph, Jean dans sa résurrection, dans son dormition, la dormition de l'agneau est glorieuse. C'est vrai, quand il passe de l'exercice à l'anastasis, son exercice, c'est-à-dire sa résurrection, saisissant toutes choses et les saisissant en lui-même, s'endort. Et quand l'exercice s'est endormi, il s'est éveillé dans l'assomption de son anastase. Jésus est ressuscité, mais je m'excuse, mais on l'a suivi. Alors il s'est arrêté et il nous a dit « Qui cherchez-vous ?» Alors on lui a dit « Seigneur, où est-ce que tu demeures ?» Alors il s'est retourné, il se regardait, il s'est retourné, il est ressuscité. Il a dit « Venez et vous verrez. » S'il est ressuscité, nous le suivons. Et nous voyons ce qui s'opère, ce qui se réalise, ce qui se diffuse jusqu'au comble, de tous les combles, de sa résurrection dans l'immolation. Nous voyons ce que Jésus, dans sa résurrection, opère, puisque l'anastase elle-même doit s'ouvrir elle-même, éclatante, dans l'avènement de l'Apocalypse. Et il faut que nous soyons l'Apocalypse de Dieu, c'est nécessaire. Hein, l'évangile d'aujourd'hui, hein, c'est fort. Hein.
La révélation de la révélation.
Il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Il n'avait pas compris qu'il fallait qu'il ressuscite d'entre les morts. Eh bien, Marie, l'Église, qui doit se planter dans la terre de notre corps spirituel d'une manière palpable, physique, incarnée, virginale, anastasiée, ce que nous ne pourrons pas ne pas éviter, si je puis dire, de voir dans cette conversion terminale du commencement du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, va nous introduire et nous introduira d'elle en nous, dans la plénitude de ce qu'elle a fait en suivant Jésus partout où il allait. Elle a produit comme reine la résurrection du Seigneur et la résurrection d'Anastase dans cette prodigieuse Pentecôte où nous en elle et elle en nous réalisons ce germe d'éternité qui fait de nous les principes de la justice glorieuse de Dieu dès cette terre et pour l'éternité. Et nous en faisons mémoire. C'est dans cette présence réelle que nous introduisons pour que elle se réalise de manière palpable de l'intérieur et en toutes choses. Jusqu'à ce que, de gloire en gloire, de comble en comble de gloire, de génération en génération, de glorification en glorification, le degré de gloire qui est celui de la Reine Immaculée de l'univers, non sans son principe glorieux qui est notre Père, dans l'immunité principielle, indissoluble, non pas sans lui, mais avec lui, réalisera ce fait que la résurrection aura atteint le monde absolu de l'acte pur du Saint-Esprit, dans l'extase de cette anastase, dans le ravissement de ce vol de l'Esprit-Saint. Alors tout sera mis entre les mains du Père et nous serons suspendus à l'heure du Père. Et nous pourrons assister ainsi à la manière dont le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts au-dedans de lui-même. Notre parcours de carême touche son terme terminant et nous aspirons désormais à ce que s'écoule en nous, dans le sacrement, la grâce d'infinité qui désormais peut s'écouler en nous librement et qui se déverse dans l'heure et l'intimité, la paternité agréée de Dieu. Nous y avons désormais accès. On ne peut pas faire comme si on n'y avait pas accès désormais. Amen.